Et donc, on a annoncé il y a un an, à cette rentrée des réseaux, qu'on allait lancer ce territoire à mission. Pendant un an, on a travaillé comme une création de société à mission, à travailler sur une raison d'être collective.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de La Machine à Sens, entièrement dédié aux entreprises à mission. Il est complété d'une newsletter hebdomadaire du même nom que je vous invite à découvrir pour plonger davantage dans l'univers des sociétés à mission. Au micro, je reçois des dirigeants d'entreprise, des managers de mission qui expliquent leur motivation, leur cheminement vers l'entreprise à mission et les actions lancées depuis, mais également des experts et des auteurs qui viennent éclairer un sujet sociétal. Je m'appelle Vivien Pertuzo et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Aujourd'hui, j'accueille Grégory Blanvillain. Grégory a tellement de casquettes que je ne les reprendrai pas toutes dans cette intro, ça rallongerait un peu l'épisode, mais vous les découvrirez rapidement. Mais c'est justement ça qui est assez passionnant, c'est qu'il a une vision très panoramique de tout ce qui se passe dans les réseaux et les syndicats professionnels dans l'Hérault. J'ai saisi l'opportunité d'être à Montpellier pour l'interroger parce qu'il se trouve au cœur du dispositif de territoire à mission initié par la CCI Hérault. Ça fait un petit moment que je m'intéresse à ce sujet de territoire à mission, et c'est donc l'occasion, avec Grégory, de voir cette expérimentation prendre forme. L'édifice ne sort pas de nulle part. Ça fait plusieurs années que des réflexions sont en cours au niveau local, dans les réseaux économiques, pour réfléchir à des démarches collectives sur la RSE et pour se saisir des dispositifs de la loi Pacte. Ainsi, Grégory nous explique que la CPME Hérault est la première en France à avoir adopté une raison d'être et à avoir modifié ses statuts en conséquence. Lui-même à la tête d'une entreprise à mission, Grégory a beaucoup poussé ses démarches visant à fédérer le maximum d'acteurs publics et privés. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'avenir dans cette démarche de territoire à mission, notamment parce que les enjeux sont toujours plus complexes, de plus en plus communs à tous, et donc les solutions nécessitent de l'inventivité. Alors si vous êtes curieux de voir comment tout ça s'est fait, comment on arrive à une raison d'être et à des objectifs à 45 réseaux économiques, comment on implique des acteurs publics dans cette démarche, cet épisode répondra à beaucoup de vos questions. Et le tout avec l'accessibilité et la simplicité dont Grégory fait preuve. Un vrai plaisir de l'avoir au micro. Sans plus attendre, je laisse place à l'écoute. Bonjour Grégory.
Bonjour.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. J'ai vraiment hâte de mener cet échange parce que je trouve que le sujet du territoire à mission est un sujet assez passionnant et très pertinent en plus. J'avais écrit sur le sujet dans le cadre de la newsletter il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Et c'est vrai que quand j'ai appris un petit peu que vous aviez une démarche dans l'Hérault qui était en plus structurée, je me suis dit que forcément j'allais profiter de mon passage à Montpellier pour venir vous voir, et donc merci d'avoir accepté l'invitation. Mais avant de passer dans le dur du sujet, une petite présentation traditionnelle de l'invité. Je vous laisserai bien évidemment amender, corriger, rajouter des éléments. Donc Grégory Blanvillain, je dirais que vous êtes un homme pressé. Vous avez fondé en 2005 l'agence Come Event Organisation, une agence de conseil en stratégie événementielle que vous dirigez encore aujourd'hui et qui se trouve être une entreprise à mission. Mais ça, c'était vraiment pas volontaire, de ma part en tout cas. Mais après, vous êtes également président de la CPME Hérault, vice-président de la CPME Occitanie, président de la commission des réseaux économiques à la CCI Hérault et président de l'association Repère Méditerranée, réseau de professionnels et d'événementiels responsables. Et tous ces engagements sont quand même, je pense, des motivateurs assez importants. Ça fait quand même un moment que vous êtes engagé dans toutes ces associations-là. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ?
Non, c'est vrai que j'ai un engagement assez fort sociétalement qui est venu au fur et à mesure. On en parlera peut-être. Il y a des choses qui se sont créées par le contexte aussi, comme Repère Méditerranée, on reviendra dessus. Mais je pense que c'est en s'engageant qu'on fait avancer les choses, donc ça fait partie de mes motivations.
Eh bien, c'est parfait. C'est tout l'objectif de ce podcast, donc c'est génial. On va se focaliser beaucoup sur le territoire à mission et l'initiative, mais c'est vrai qu'en préparant là, à l'instant, en discutant, en fait, bon, il y a tout se crée, tout est lié. Mais peut-être avant de revenir directement sur le territoire à mission, en préparant cet entretien, on avait échangé et vous m'aviez dit qu'il y avait une spécificité quand même dans l'Hérault avec cette commission des réseaux économiques qui est assez particulière en fait, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment ça se structure toutes ces associations ?
Alors en fait, c'est dans le cadre de mon engagement à la CCI où effectivement j'ai été d'abord élu, puis membre du bureau, maintenant vice-président de la CCI, de l'Hérault. On avait créé, il y a maintenant 12 ans, c'était la CCI de Montpellier à l'époque, une commission des réseaux économiques en se disant la chambre de commerce et de l'industrie, c'est la maison des entreprises et il est important de fédérer les réseaux entre eux et de travailler collectivement parce qu'ensemble, tout simplement, on a beaucoup plus d'impact. Et également parce qu'on considère que tous les chefs d'entreprise, tous les créateurs d'entreprise, mieux ils seront intégrés dans les réseaux et mieux ils ont des chances de pérenniser leur entreprise, de la faire durer, de la développer. Donc c'était vraiment l'idée d'ouvrir les réseaux à tous les acteurs. Moi qui ne suis pas de Montpellier, j'ai débarqué ici pour créer ma société sans connaître personne. Et c'est vrai qu'au début, on se dit si on n'est pas dans les réseaux, tout le monde a l'air de se connaître. On ne sait pas trop comment avancer. D'où mon engagement très rapidement à la CPME de l'Hérault. Et puis après, j'ai pris des mandats et puis la CCI. Voilà un peu cette commission des réseaux qui a démarré petite, hein, sans doute avec une dizaine de réseaux, et aujourd'hui qui fédère presque 45 réseaux sur tous les Hérault, où on y retrouve les syndicats patronaux, CPME MEDEF, on y retrouve tous les réseaux qu'on peut retrouver au niveau national ou international, comme les femmes chefs d'entreprise, comme les dirigeants commerciaux de France, comme le Centre des jeunes dirigeants, le CJD, comme la French Tech, comme 60 000 rebonds. Il y a des réseaux qui sont un peu plus locaux, parce que comme le CREM, comme des réseaux un peu géographiques qui sont sur tous les Hérault, il y en a au Pic Saint-Loup, il y en a le club Molière à Pézenas, voilà. Donc on a un peu tous ces acteurs, on a la chambre des consultants du professionnel du conseil, on a des réseaux dans le digital, on a des réseaux dans l'export aussi, dans l'international, et donc ça permet vraiment de fédérer l'ensemble des réseaux, de trouver des problématiques communes, parce qu'à un moment, et notamment la RSE, et ça a été vraiment depuis 2-3 ans un gros virage qu'on a pris dans cette commission, et finalement qui fédère tout le monde, parce qu'on a tous les mêmes problématiques, on est tous conscients de certaines urgences, de certaines transitions qui sont essentielles, et qu'il faut que nous, monde de l'entreprise et monde économique, on accompagne, et même je dirais qu'on anticipe, plutôt que d'attendre qu'on nous l'impose par la loi. Voilà un peu, très brièvement.
Alors on reviendra évidemment sur tous ces engagements RSE. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que ces initiatives-là, parfois, elles sont lancées, mais souvent, en fait, elles ne durent pas très longtemps. Là, comment vous avez réussi à fédérer un petit peu tout cet écosystème et faire durer cette initiative dans le temps ?
C'est un travail de longue haleine, d'essayer d'écouter tout le monde, de que chacun trouve sa place dans les actions communes. Puis je pense que c'est l'action en fait. Voilà. Souvent il y a des grands discours mais qui ne sont pas suivis d'action. Nous on n'a pas annoncé des choses qu'on ne faisait pas, on a annoncé les choses quand on les faisait. Et donc en fait, de par une opération par exemple qui s'appelle Booste ton réseau, et depuis plusieurs années on va dans les écoles supérieures, les universités, pour expliquer à tous les jeunes étudiants que le mot réseau, c'est pas que les réseaux sociaux, et d'ailleurs que le vrai lien de confiance, il se crée dans la vie réelle. Et donc on va leur expliquer l'intérêt de faire du réseau pour trouver un stage, pour trouver du boulot, pour trouver des collaborateurs, pour monter son entreprise, pour trouver des clients plus tard. Voilà, donc c'est autour d'actions comme ça, autour d'événements comme la rentrée des réseaux économiques qu'on organise depuis maintenant 5 ans, et de trouver des thématiques qui parlent à tout le monde. Voilà, donc c'est vraiment autour de l'action, je pense, progressivement, en avançant un peu pas à pas, et comme je dirais, les démarches qui doivent être faites au niveau de la RSE, on y reviendra, où je pense que même si ça fait peur à tout le monde, il faut avancer petit à petit. L'important, c'est de savoir d'où on part, où on veut arriver, et de se donner les moyens.
Justement, parlons un petit peu de ces sujets RSE, parce que là, c'est... Genre, je sais pas si c'est mon œil de très loin, etc. J'avais pas identifié très honnêtement Montpellier et l'Hérault comme un terreau fertile sur les sujets de RSE. Et c'est vrai que de plus en plus, en m'intéressant aux sujets de société à mission, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont portées au niveau local. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Alors, je pense de toute façon, comme toute action, comme toute association, et le dynamisme vient des hommes et des femmes qui sont à la tête des réseaux économiques, à la tête des décideurs peut-être politiques. L'Occitanie, je dirais même avant le Languedoc-Roussillon, a toujours été quand même très avancée sur l'économie sociale et solidaire. Donc il y a quand même une belle base, oui, là-dessus. Et avec des acteurs engagés qui qui était voilà plutôt sur le côté entreprise privée, mais qui faisait déjà beaucoup de choses très vertueuses. Et je pense qu'on est plusieurs dans le département à se dire il faut arrêter d'opposer économie sociale et solidaire, et puis de l'autre côté c'est les méchants capitalistes qui sont là que pour faire du bénéfice et qui exploitent leurs salariés, leurs collaborateurs. On a un tissu d'entreprise aussi en Occitanie, encore plus dans l'Hérault, qui est essentiellement composé de TPE, c'est près de 98% d'entreprises de moins de 10 salariés. Donc en fait, ce qui fait qu'on a un rapport dans nos entreprises qui est très proche de nos collaborateurs. Et donc bien sûr que le bien-être au travail est important, bien sûr que le moral de nos salariés est important, bien sûr qu'on est attentif aux enjeux environnementaux qui nous entourent, parce qu'on est des petites structures et que d'ailleurs nos collaborateurs sont les premiers à nous rappeler si on ne respecte pas l'environnement, si on ne respecte pas l'écosystème dans lequel on vit. Donc je pense que tous ces éléments, et puis quelques personnes qui ont pris la parole, je pense, qui ont entraîné dans les réseaux, dans peut-être nous on a l'avantage, c'est pas venu effectivement du politique, c'est vraiment les décideurs économiques qui, en se fédérant, ça a permis de faire émerger toutes ces actions.
Et alors, comme vous le disiez, très 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 grosse majorité de TPE dans le département plus particulièrement, et on sait en même temps que la RSE, c'est pas forcément le sujet prioritaire pour une TPE, parce qu'elle a 25 autres priorités, la première étant sa propre pérennité économique. Donc comment est-ce que vous avez réussi à initier un peu ce sujet au départ ?
Alors nous, ça a été tout le travail qu'on a fait avec la CPME, pour le coup, depuis maintenant 2019. On a voulu faire un peu la RSE pour les nuls, et c'est pas péjoratif de le dire, et on a voulu démontrer que finalement, dans une TPE, on faisait déjà beaucoup de RSE, mais qu'elle n'était pas structurée, qu'elle n'était pas, parce que c'est des entreprises effectivement qui n'ont pas les moyens et le temps d'aller jusqu'au label, jusqu'aux normes, et qui ne se rendent pas forcément compte qu'elles le font. Comme je disais, le bien-être au travail, bien sûr qu'il est évident quand on est quatre, on connaît tous nos salariés, et c'est important qu'ils soient en forme et qu'ils soient bien dans l'entreprise. Donc on a voulu partager ces bonnes pratiques. Le Covid nous a un petit peu stoppé, mais on a lancé notamment une initiative qui s'appelle les prix de l'entreprise responsable et engagée, ERE. On voulait sortir un peu du mot RSE qui avait été mis à toutes les sauces, il y avait eu beaucoup de greenwashing et ça pouvait faire peur, et donc de montrer qu'une entreprise responsable et engagée, c'est une entreprise qui agissait positivement sur un des piliers de la RSE, et peut-être pas tous, on peut pas être bon dans tous les domaines parce qu'on n'a pas une personne qui s'occupe de ça à temps plein, mais que si on regardait bien dans n'importe quelle entreprise, il y avait des choses qui se faisaient bien en termes de management collaboratif, en termes de diversité, en termes d'impact environnemental, en termes de communication responsable, etc., etc. Donc on a créé ces prix, et pareil, on l'a pas fait tout seul, on l'a fait avec une quinzaine de réseaux, donc on retrouve un certain nombre de réseaux dont je vous ai cité qui nous accompagnent et qui gèrent chacun une catégorie. Justement, on s'est vraiment basé sur les 7 piliers de la RSE, et on en a rajouté un 8e qui j'avais été sensibilisé d'ailleurs sur le lancement de la loi Pacte là-dessus à l'Assemblée nationale, sur le numérique responsable. C'est facile de comprendre qu'une voiture ou un avion ça pollue, mais aujourd'hui le numérique pollue plus que le trafic aérien et est sans doute amené à se développer beaucoup plus. Donc on a voulu sensibiliser aussi sur ce sujet. Voilà.
D'accord. Vous parliez de la CPME et les efforts que vous avez faits, et ça s'est structuré en fait même au sein de la CPME, hein, parce que donc il y avait un comité de parties prenantes, et maintenant ça va beaucoup plus loin encore.
Ouais, ça a été une démarche qui s'est structurée un peu intellectuellement dès 2019 avec ce lancement de la loi Pacte, et justement pour moi cette révolution des sociétés à mission qui est inscrite et qu'on peut mettre dans nos statuts et qui justement sort du conflit ESS d'un côté, méchant capitaliste de l'autre, et dire mais non, on peut être une entreprise à but lucratif, parce qu'à un moment, si on veut pérenniser, innover, investir, créer des emplois, il faut bien que l'entreprise soit rentable, mais qu'on peut le faire de manière aussi vertueuse, que tout le monde profite de la richesse qui est créée, qu'on peut être attentif à son environnement. Donc ça a été vraiment un déclic pour nous, et donc dès 2019, au lancement où on avait eu la chance d'être invité par Coralie Dubos, qui était à l'origine de cette partie des sociétés à mission dans la loi Pacte,
député
de l'Hérault, on a été invité donc à ce lancement, et dès son retour on a créé le comité des parties prenantes de la CPME. À l'époque on parlait pas de comité de mission, on parlait de beaucoup de comité des parties prenantes, et on a invité toutes nos parties prenantes les organismes sociaux, tous les mandats, enfin tous les organismes dans lesquels on a des mandataires, les prud'hommes, le TC, la CCI, les chambres consulaires, les universités, etc., etc. On les a tous réunis pour leur expliquer notre démarche en matière de RSE et comment on allait travailler. Et la loi PACTE n'était pas votée. Et puis donc on a créé ces prix ERE. Bon, le Covid a un peu ralenti la chose. On a décalé ce projet d'un an qui est sorti en 2021. Et puis on en est arrivé jusqu'à dire, bah nous, le statut dans la loi d'association à mission n'existe pas, mais nous, en tant que syndicat patronal, nos statuts et notre objet social, c'est le même dans tous les départements et bien sûr en région et au niveau du national, et qui est de défendre hein, et de représenter les entreprises. Mais on s'est dit, on a aussi un impact très important sur notre territoire de par notre engagement, et on s'est doté d'une raison d'être, et on s'est doté d'objectifs stratégiques qu'on a inscrits dans nos statuts sur une d'ailleurs assemblée extraordinaire qu'il a fallu faire validé par le comité national de la CPME. Et donc, on va jusqu'au bout de la démarche avec un comité de mission et tous les ans, on va leur présenter nos résultats et nos actions en matière de RSE. On avait d'ailleurs Olivier Grégoire qui est venu pour cette première en France. Voilà.
Bon, bah, j'espère que d'autres CPME seront tentés de franchir le pas aussi, parce que c'est vrai que la loi PACTE ne permet pas aux associations aujourd'hui de passer société à mission, même si je pense que de plus en plus se pose la question, trouve la démarche.
Il n'y aura peut-être pas la démarche d'aller jusqu'à l'audit, quoique on verra, parce que je pense que c'est quand même important que de prouver que c'est pas du greenwashing et qu'on fait les choses. Mais en tout cas, je pense que la démarche et de l'inscrire dans ces statuts est importante parce que c'est gravé dans le marbre et qu'à un moment, les présidents passent dans les associations, dans les syndicats, mais les écrits restent et donc ça montre ce qui est fait.
Avant de poursuivre l'épisode, je voulais vous parler d'une nouvelle série que je vais lancer sur le podcast de questions-réponses sur l'entreprise à mission. Si vous posez des questions sur la démarche, que vous soyez en réflexion, mais qu'est-ce que c'est vraiment une entreprise à mission ? Quelle est la différence entre vision, ambition, mission ? Que vous soyez en train de mener cette démarche ? Comment trouver une bonne raison d'être ? Comment articuler ses objectifs ? Ou que vous soyez déjà société à mission ? Comment embarquer mes collaborateurs ? Comment bien animer mon comité de mission ? Comment articuler ma plateforme de marque avec ma mission ? Je vous propose qu'on en discute dans un épisode. En fait, je me suis rendu compte que vous étiez nombreux à avoir les mêmes interrogations, à rencontrer les mêmes situations, à partager les mêmes doutes. Donc venez échanger au micro. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn ou par email. Toutes les infos sont dans les notes de l'épisode. Alors bien sûr, on pourra ne pas mentionner le nom de votre entreprise si vous le souhaitez, mais partageons nos connaissances. C'est vraiment l'objectif de ce podcast. Des bonnes pratiques, mais également des questions et des doutes. J'ai hâte d'échanger avec vous. À très bientôt. Et je laisse place à la suite de l'épisode. Je vous propose qu'on passe un petit peu au territoire de mission, parce que c'est une notion en fait dont on parle un petit peu de manière diffuse depuis quelques années. Il y a différentes initiatives qui ont été lancées, mais là au niveau du territoire, il y a quand même quelque chose. Là, on parle d'une démarche vraiment très structurée. On y reviendra, mais déjà, d'où vient cette idée de territoire à mission
Alors cette idée, je vais redonner à César ce qui appartient à César. Elle a été structurée intellectuellement par Olivier Thomas, qui est le cabinet, l'agence Primum Non Nocere, qui est à Béziers, qui est une des premières sociétés à mission de France, hein, c'était dans les toutes premières, et qui est un cabinet qui accompagne dans les démarches RSE au sens large du terme, beaucoup dans la santé au départ, et puis après ça s'est élargi. Et puis c'est venu donc de lui à structurer cette démarche et de toutes nos relations, de tous nos échanges, et de tout ce qu'on faisait d'ailleurs avec la CPME. On avait la chance d'avoir cet outil de la commission des réseaux, et quand on a 45 réseaux qui sont fédérés, ça veut dire que derrière c'est plusieurs milliers d'entreprises en fait quand on ajoute tous les adhérents.
Oui, de fait, oui.
Et donc c'est un outil formidable pour lancer très rapidement quelque chose. Donc on a structuré la démarche dans cette commission réseau. On a monté un observatoire de la RSE où on interroge sur l'héros les ressortissants de la chambre de commerce pour savoir ce qu'ils font, parce que on a tous des chiffres sur l'égalité homme-femme, sur la diversité, sur l'emploi des personnes en situation de handicap, mais des chiffres dans les TPE pour savoir vraiment qui pratique l'intéressement, qu'est-ce qui est fait en matière de communication responsable, qu'est-ce qui est fait sur tous les piliers, on n'avait pas. Donc on a une enquête très complète qui a été lancée, qu'on fait tous les ans pour voir un peu comment ça évolue. Et donc on a annoncé il y a un an, à cette rentrée des réseaux, qu'on allait lancer ce territoire à mission. Pendant un an, on a travaillé comme une création de société à mission, à travailler sur une raison d'être collective, à travailler sur des objectifs stratégiques collectifs et à travailler sur des objectifs opérationnels timé. Et donc, toute la démarche structurée a abouti à ce lancement du territoire à mission en septembre 2022, cette année, pour vraiment avec une charte d'engagement qui a deux niveaux. Il y a une charte d'engagement pour les réseaux, où leur rôle à eux est de sensibiliser leurs adhérents, mais c'est aussi une charte qui peut correspondre à une collectivité qui s'engage, à une chambre de commerce qui s'engage, donc pour sensibiliser ses administrés, ses citoyens, sur un objectif commun, de se dire ensemble, on prend un objectif, on regarde où on en est, on chiffre d'où on part et où on veut arriver, et puis on regarde dans 6 mois, dans 1 an, les résultats et vraiment l'impact. Donc c'est une autre façon peut-être d'impliquer les entreprises qui ne veulent pas tout aller dans la société à mission, qui ne savent pas trop comment commencer sur leur démarche RSE, de se dire c'est déjà un premier pas, on s'engage dans cette démarche-là, et donc c'est structuré exactement pareil avec une raison d'être collective. Ça n'a pas été facile de trouver une raison d'être avec 42 réseaux, mais elle a été acceptée à l'unanimité, on a trouvé des points d'accord, ce qui est la même démarche dans une entreprise où c'est intéressant de le faire avec l'ensemble de son équipe.
On va revenir effectivement sur la raison d'être, les objectifs et la charte d'engagement, mais peut-être avant ça, j'aimerais juste imaginer un petit peu la scène où est-ce que c'est vous qui êtes arrivé en disant j'ai une idée, on va se structurer en territoire à mission. Comment les autres réseaux vous ont regardé? Parce que j'imagine que tous ne connaissaient pas forcément ce que c'était qu'une société à mission.
Alors, ça a été, comme je vous l'ai dit, ça a été progressivement. Donc, effectivement, j'ai pas débarqué et avec Olivier Thomas qui est venu aussi expliquer la démarche et la structuration du jour au lendemain. Je vous l'ai dit, il y a eu des actions RSE, il y a eu cet observatoire, il y a eu la thématique, par exemple, de notre entrée des réseaux il y a un an était, avant de lancer le territoire à mission, était les achats responsables. Et donc, finalement, c'est venu progressivement. Alors, je rabâche beaucoup, donc du coup, et même à un moment, on me dit, ouais, il y en a marre, tu parles que de RSE. Mais c'est vrai que ça a structuré toutes ces démarches, et à un moment, on a dit, on pourrait aller plus loin. Comment on entraîne tout le monde? Parce que c'est bien beau dans les réseaux, on dit nous tête de réseau, on fait des choses, mais comment on entraîne la majorité? Et une chambre de commerce par exemple, mais elle est là pour essayer d'entraîner un maximum de monde, de ses ressortissants, donc il y en a qui sont déjà beaucoup plus avancés et eux ils n'ont pas besoin de nous parce qu'ils ont déjà des gens, ils ont déjà des cabinets conseils, ils ont déjà des labels, des normes qui structurent leur démarche. Nous l'intérêt, et c'est tout l'intérêt du territoire à mission, c'est qu'on peut entraîner tous les acteurs, mais d'ailleurs entreprises, mais quand je vous dirai qui a signé, on peut entraîner l'ensemble des acteurs du territoire. Voilà.
Alors, passons justement à cette démarche, parce que déjà trouver une raison d'être pour une entreprise, c'est pas évident, même si globalement on y arrive quand même. Mais là, j'imagine que trouver une raison d'être qui soit commune à 45 réseaux, avec des réseaux qui en plus ont des thématiques, parce que soit sectorielles, soit sont thématiques. Comment vous avez fait?
On a travaillé un peu sous forme d'atelier, on a travaillé accompagné par le cabinet pour faire ressortir les thématiques, les valeurs qui nous fédéraient. Hein. Et comme je vous l'ai dit, comme ça faisait un certain temps qu'on était tous ensemble, qu'on parlait de ça, ça a été plutôt facile finalement par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Il y a la notion de territoire qui est ressortie, parce que toute notre implication à tous en tant que tête de réseau, si on s'implique, c'est bien pour avoir un impact positif sur notre territoire, dans n'importe quel domaine que ce soit, mais il y avait cette notion-là. Il y avait la notion, et qui finalement le Covid et la crise sanitaire nous a beaucoup aidé à retrouver les valeurs de proximité, de consommer local, d'économie circulaire, plus l'urgence climatique, qui était encore pour beaucoup une notion un peu abstraite il y a quelques années, et plus ça va, moins il y a de sceptiques aujourd'hui, et donc aujourd'hui tout le monde est mis devant le fait accompli et tout le monde comprend que c'est le moment d'agir. Donc si je vous donne la raison d'être qui est sortie, c'est agir, et le mot agir a été vraiment, vraiment sélectionné, parce que c'est ce que je vous disais, on a réussi à fédérer en faisant des actions, pas en faisant juste des discours, mais d'abord on fait les actions, on prouve que ça marche et après on peut en parler, pour un territoire et une qualité de vie durable. La réflexion là-dessus a été, on parle souvent de la qualité de vie de l'Hérault, parce qu'il faut quand même savoir que l'Hérault, c'est, je ne vais pas vous dire de bêtises, je crois 2000 foyers qui s'installent chaque année dans l'Hérault, dont une grosse partie sur la métropole de Montpellier. Donc c'est le territoire de France où il y a le plus de gens qui viennent s'installer chaque année. et ça depuis des années. Et on parle de cette qualité de vie parce qu'on a une belle métropole, mais qui n'est pas encore une énorme métropole où on peut, on se connaît pas. On a la mer à 10 minutes, on a l'arrière-pays qui est magnifique avec la garrigue, il y a la Camargue pas loin, il y a Sète, donc on a un très très beau territoire. Et donc cette qualité de vie, on s'est dit, mais c'est ça qu'on veut garder. Malgré tout ce qui se passe. Donc on a voulu associer qualité de vie durable et territoire durable. Et donc voilà comment cette réflexion est sortie, agir pour un territoire et une qualité de vie durable.
D'accord. Et après, qui dit mission dit aussi des objectifs. Donc là, il y a trois objectifs, hein, si je ne m'abuse, qui ont été décidés. Le premier, c'est favoriser une consommation responsable et locale. Le deuxième, c'est préserver et œuvrer pour la santé environnementale. Et le troisième, c'est promouvoir une dynamique territoriale. Alors, beaucoup de ces éléments, vous en avez déjà parlé, effectivement. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir, bon, bah, vous avez vos objectifs, mais quelles actions vous allez mener, comment ça va se structurer, et où vous en êtes où dans cette démarche, justement.
Donc, dans tous ces objectifs, je ne vais pas revenir dessus, que vous venez de donner, après, on a voulu être très concret et dans l'action, et on s'est dit, bien sûr que ça, c'est les objectifs à long terme. L'objectif à long terme est la décarbonation des activités économiques. Tout en maintenant, et ça on y tient, en parlant de croissance et de croissance positive, de croissance verte, mais surtout pas de rentrer dans ces idées de décroissance, on n'est pas là pour ça, loin de là, et on pense au contraire qu'on peut, en innovant, en faisant de la recherche, en travaillant intelligemment, on peut répondre à tous les enjeux si tout le monde se fédère. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc pour entraîner un maximum de monde, on a dit qu'il faut qu'on trouve des objectifs atteignables qui parlent à tout le monde et qui correspondent à tout le monde. Et donc le premier objectif qu'on s'est donné, mais très concret, c'est la suppression du plastique et de l'usage unique, puisque ça concerne tout le monde. Il y a des bouteilles d'eau en plastique encore de partout, et je ne vais pas revenir sur l'impact du plastique sur l'environnement et sur l'écologie. Et donc on a choisi collectivement ça. On l'a pas timé, c'est-à-dire que si on met un an à obtenir des résultats, peut-être qu'on choisira un second objectif qui peut être la qualité de l'air, qui peut être sur une cause peut-être un peu plus sociale ou sociétale, on verra, mais avec ces objectifs finaux. Et donc là, l'engagement, c'est que d'un, les réseaux, les collectivités qui s'engagent, comme vous l'avez dit, sensibilisent eux sur leur territoire, et deux, les acteurs s'engagent, eux, à agir au sein de leur entreprise avec une plateforme en ligne qui permet de faire un mini audit pour savoir où on en est. Et je vous parlais des bouteilles d'eau, mais c'est aussi les emballages, c'est aussi comment on gère toute la consommation du repas du midi dans les entreprises, etc., etc. Et donc de pouvoir faire vraiment un audit, de savoir où on en est, de pouvoir, en fonction de ces résultats, donner un petit plan d'action très simple aux signataires, et de pouvoir refaire le même audit dans un an et de voir vraiment quel a été l'impact. Et peut-être, j'espère que dans un an, on pourra vous dire, on n'est peut-être pas encore un territoire zéro plastique, mais voilà tout ce qu'on a mis en œuvre. Et je vais vous donner un exemple, hein, parce que il faut aussi être les premiers à montrer l'exemple. La CC de l'Hérault, on avait cette problématique des bouteilles en plastique, parce que dans une CCI, il y a énormément de réunions tous les jours, il y a des commissions de travail tous les jours, il y a des conférences de presse tous les jours, et il y avait des bouteilles en plastique d'eau sur les tables et en permanence. Et dès le lendemain de cette signature, la direction générale avec les élus ont pris la décision de dire: on supprime toutes les bouteilles en plastique, maintenant c'est carafe d'eau à chaque fois qu'il y a des réunions qu'on met dans les salles. Et on met des gobelets pour l'instant en carton recyclable, donc il n'y a plus de plastique. Aujourd'hui, on avait une assemblée générale cet après-midi de la CCI. Tout le monde avait une bouteille d'eau qu'on retrouve dans les TGV actuellement, sur des emballages plutôt en carton avec un bouchon en fibre de bambou. C'est encore pas totalement recyclable, je crois. Il y a encore cette partie pellicule à l'intérieur, mais les industriels sont en train de faire beaucoup de recherches là-dessus. Je pense qu'on y arrivera. Mais voilà, donc plus de bouteilles en plastique.
D'accord, ok. Et parce que c'est intéressant d'avoir décidé de vous focaliser en fait sur une initiative comme ça. Pourquoi celle-ci en particulier? Il y avait Vous êtes dit c'est celle qui est la plus fédératrice.
On a cherché effectivement à trouver quelque chose qui pouvait parler à tout le monde et à toutes les tailles d'entreprise. Et finalement, l'objectif derrière ça, il est d'avoir un impact très concret sur un sujet. Mais quand on va commencer, quand tout le monde va commencer à rentrer dans la démarche, forcément que ça va permettre de se poser d'autres questions sur d'autres sujets et d'aller beaucoup plus loin. Donc il y en a qui n'ont pas besoin de ça parce qu'ils ont déjà des démarches très structurées en matière de RSE, ils sont déjà avancés beaucoup plus loin. Mais nous, l'objectif, c'est d'entraîner la masse et un maximum de monde. Et en plus, enfin, moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'impact qu'on pourra et de transition qu'on pourra réussir dans la société à travers les entreprises, parce que ce qu'on va mettre en place dans nos entreprises, forcément les collaborateurs vont avoir le réel impact et vont pouvoir le recréer, le repartager dans la société civile. Donc je pense qu'on a beaucoup d'éducation à faire et de messages et à faire passer dans les entreprises.
De toute façon, ça marche dans les deux sens, en fait. C'est vrai que à partir du moment où une entreprise commence à dire bon bah on va bouger, il y a des collaborateurs qui eux se disent ah enfin, et donc dit bon bah si on commence, bah on va accélérer, on va pousser d'autres initiatives et l'entreprise aussi. Donc c'est vrai que ça s'alimente complètement,
exactement ce que, et d'ailleurs quand on a lancé le territoire à mission, la thématique qui accompagnait ça en termes de conférences, c'était la marque employeur, justement, pour expliquer que aujourd'hui, en plus, le rapport de j'aime pas le terme rapport de force, mais effectivement aujourd'hui les collaborateurs sont beaucoup plus à même de choisir l'entreprise dans laquelle ils ont envie de travailler, et on voit toutes les tensions qu'il y a sur le marché. Et donc les entreprises qui vont attirer les talents, qui vont garder les talents, ce sera celles qui seront sans doute les plus engagées, parce que les jeunes générations demandent ça, et qu'aujourd'hui il n'y a plus personne qui a envie de travailler dans une entreprise qui ne respecte pas son environnement, qui aurait des pratiques douteuses, etc. Donc c'est effectivement aussi une volonté, en tout cas des nouvelles générations. C'est peut-être moins le cas parce que la transformation fait peur, le changement fait peur en France, et dès qu'on doit changer les habitudes, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, c'est pour ça que l'entreprise en tant que telle est un laboratoire en fait à ciel ouvert, puisque dans une entreprise il y a une vraie intégration de tous les milieux sociaux. On ne retrouve pas un seul profil, un seul type d'âge, un seul type, et donc c'est pour ça que c'est ici, je pense, que le changement doit se faire. Mais c'est quand même la rencontre, je suis d'accord, entre des générations et des citoyens qui réclament ça, et puis des décideurs et des gens peut-être un peu plus ancrés dans leur tradition et dans leurs habitudes, qu'il faut changer. Et donc c'est ce travail qui est fait, ouais.
Par rapport à la charte d'engagement, comment elle s'insère dans tout ce dispositif ?
Alors, c'est une charte qui doit être signée en ligne, avec un certain nombre, là aussi, d'objectifs de moyens. Comme une société à mission, les objectifs, il n'y a pas d'objectif de résultat, même si ça ne doit pas être justement du greenwashing, et qu'après, par un outil digital, tout simplement, on va regarder avec un premier audit d'où on part et où on arrive, pour vraiment chiffrer quand même l'impact qui est mis en place. Donc il y a deux chartes un petit peu différentes. La charte un peu réseau collectivité, qui elles sont là pour entraîner leurs ressortissants, leurs citoyens, leurs administrés, et puis une charte acteur où on s'engage dans notre entreprise à mettre en place des actions de sensibilisation, justement à faire l'audit et à regarder quelles sont les actions qui peuvent être mises en place, à participer. Il y aura des webinaires en ligne, il y aura un certain nombre d'actions. Chaque année, il y aura 2-3 grands rendez-vous pour un peu une sorte d'assise pour regarder où on en est, ce qui a été fait, partager les bonnes pratiques, et donc les actions qui seront mises en œuvre.
D'accord. Et aujourd'hui, cette charte, elle a été signée par tous les acteurs, même d'autres qui ne sont pas forcément dans les réseaux ?
Ah oui, alors dès le lancement, et c'est ça qui est intéressant, et là on est en train d'accélérer un peu les choses, il y a effectivement une vingtaine de réseaux qui ont signé, donc c'est pas encore les 42 qu'on a, mais il y a une vingtaine de réseaux, mais ça représente quand même plusieurs milliers d'entreprises qui ont signé, et donc qui elles sensibilisent maintenant pour que le deuxième étage de la fusée soit maintenant les entreprises, leurs adhérents qui s'engagent. La ville et la métropole l'a signé, c'est en présence du maire président qui était là et qui s'est engagé. On a des organismes sociaux, et ça c'est un peu parce qu'on oublie que c'est des employeurs, et l'URSSAF par exemple de l'Hérault a signé, et ils font des choses assez remarquables d'ailleurs en matière de RSE, ils sont bien plus engagés que cette simple action. La CAF de l'Hérault a signé. Vous avez une école comme Montpellier Business School qui a signé. Vous avez donc la Chambre de commerce et d'industrie, qui est un organisme public, qui a signé. Des grosses entreprises, des petites entreprises. Là, Primum, qui travaille beaucoup sur la santé, est en train de regarder aussi. Et il y a des universités qui vont s'engager, il y a des cliniques, il y a des hôpitaux qui vont signer. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de montrer que des écoles, le public, le privé, tous les acteurs, les associations avec les réseaux, mais ça pourrait être d'autres associations qui s'engagent. L'objectif, c'est d'entraîner tous les acteurs avec nous.
Voilà. Bah, c'est vrai qu'en soi, à partir du moment où vous utilisez le vocable territoire à mission, sur un territoire, il y a des entreprises, il y a la société civile, il y a les pouvoirs publics, il y a différents types d'organisations. Donc c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir fédérer le maximum d'acteurs derrière une initiative commune. Donc tant mieux si
tout
ça
à
prend.
Fait. Tout à fait.
Tant mieux si ça prend. Est-ce que vous avez un comité de mission?
Alors oui, il est en, parce que finalement cette structure n'existe pas.
Bah donc, oui, c'est pour ça que je pose la
question. C'est une structure, c'est une démarche qu'on est en train de structurer au fur et à mesure, où donc on attend un peu d'avoir un peu plus de signataires pour voir un peu la représentation et que notre comité de mission finalement soit représentatif avec un peu de public, un peu de privé, un peu. Mais l'objectif est vraiment la même démarche qu'une société à mission, et que dans un an on fasse un bilan de cette première action avec un comité de mission qui valide et qui regarde les actions qui ont été faites, qui propose et qui décide de l'action, soit à poursuivre, soit à en proposer une nouvelle. Voilà un peu la démarche. Donc ça va évoluer effectivement au fur et à mesure. Là, les décisions sont plutôt prises dans cette commission des réseaux actuellement, pour faire avancer la démarche. Et donc la charte d'engagement a été travaillée comme ça avec Primum Non Nocere. Et puis au fur et à mesure, on va structurer un peu la démarche, mais il y a déjà un outil qui va être mis en ligne pour cette plateforme qui va permettre de centraliser, de se scorer, etc.
Non, bah très bien. En tout cas, j'espère que ça donnera, ça fera des émules sur d'autres territoires, parce que je trouve que vraiment c'est le territoire. Enfin, là, après, à chacun de définir le périmètre du territoire, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant justement de pouvoir réfléchir tous ensemble à des problématiques communes. Pour terminer ce podcast, quelques questions qui vous concernent plus personnellement. La première, c'est lié à votre agence, parce que vous êtes passé société à mission également. Vous avez fait le travail. Est-ce que vous pouvez nous dire les premiers bénéfices que vous voyez d'être passé société à mission, surtout en plus dans un secteur où bon, il y a
alors,
du travail.
Les bénéfices, on va les avoir peut-être un peu plus tard en tant que tel. Mais le premier bénéfice, c'est que nous, ça nous a permis de structurer aussi notre démarche avec des choses finalement quand on a commencé à regarder vraiment à structurer, on s'est rendu compte qu'on faisait énormément de choses. Mais c'était naturel d'aider des associations caritatives, maintenant on a signé pour un projet d'agroforesterie où on va replanter 200 arbres dans un domaine pas loin, mais en plus qui sert à faire de l'agriculture bio, et en plus c'est fait par des travailleurs en situation de handicap. On est partenaire du sport féminin, on est adhérent de la LGBT pour la cause homosexuelle, on donne beaucoup de temps et de choses sur l'écosystème avec tous les engagements qu'on a, et mes collaborateurs d'ailleurs étaient aussi engagés puisque j'en avais un qui était président de la Jeune Chambre économique, donc c'était vraiment cet engagement qui nous correspondait. Donc c'est vraiment déjà de structurer une démarche, je trouve, et en plus ça nous a permis un peu de nous occuper pendant le Covid où finalement à un moment on voyait jamais le bout du tunnel, et donc ça permettait aussi de préparer la suite, mais surtout d'avoir une démarche intellectuelle et collaborative, puisqu'on a construit notre raison d'être avec toute l'équipe, on a eu ces réflexions, on a été beaucoup plus loin, parce que dans la réflexion d'une agence d'organisation d'événements, tout seul on fait rien, puisque notre impact il est quand même assez limité. Nous c'est des petits locaux, on a très peu de véhicules, donc pour réduire notre impact, notamment en notre impact carbone, c'est assez compliqué. Et puis on pourrait être les meilleurs du monde si on n'a pas des prestataires, puisque nous on est un peu un architecte avec des prestataires. Si nos traiteurs sont pas dans la démarche, si nos boîtes techniques ne sont pas dans la démarche, si nos loueurs ne sont pas dans la démarche, ça sert à rien. Donc en fait on a eu un peu ce rôle de fédérer, on a créé des grilles de scoring, donc pour challenger tous nos prestataires, pour leur dire voilà, ben on va vous scorer chaque année. C'est pas un jugement, c'est pour travailler et progresser ensemble. Et on va regarder comment on peut réduire le gaspillage alimentaire, comment on peut réduire l'impact carbone de toutes les livraisons, peut-être des fois regrouper dans un seul camion le paysagiste avec le loueur de vaisselle et le loueur de mobilier. Comment, bien sûr, nous on peut proposer aux invités des événements, des applications ou des choses pour faire du covoiturage, comment on travaille avec les traiteurs sur des menus bas carbone, avec des produits locaux et moins d'impact sur les produits qui sont choisis, et notamment mettre par exemple que de la viande blanche ou du poisson, etc. Donc on a regardé la gestion des déchets, bien sûr, comment on peut réduire un peu des fois... La moquette, on en met tout le temps partout, mais ça reste un sujet. Voilà, comment on réduit le plastique, bien sûr. Donc voilà, on a regardé tout ça. Ça nous permet aussi de répondre à une demande, et on a créé toute une gamme de séminaires éco-responsables pour donner du sens et pas juste dire tiens, on va tous faire un saut en parachute, on va tous faire une course de... Mais dedans, d'amener des thématiques autour de la RSE qui peuvent être très diverses et variées, mais qui peuvent toucher des sujets de management, de diversité, d'impact environnemental. Donc on a créé des... Voilà, on peut proposer d'aller descendre le Lez en canoë, mais en même temps nettoyer les berges. On peut proposer d'aller chez notre paysagiste et travailler sur faire un mur végétal ou un potager d'entreprise qui après sera ramené dans l'entreprise. On peut travailler sur des chasses au trésor dans la Camargue, mais pour apprendre à connaître et à respecter la nature. On peut amener des causes de diversité, d'intégration, d'inclusion par des ateliers plutôt théâtre, mais du coup de donner du sens dans toutes les activités. Ça, c'est le premier point qu'on a vraiment travaillé. Puis après, alors, j'aime pas le mot parce que c'est très ça fait toujours... question à débat, la question de la compensation, parce que ça voudrait dire qu'on a le droit de polluer, mais un événement forcément a un impact environnemental, on fait tout pour le réduire. D'ailleurs, il y a des fois où il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que même s'il y a énormément de gens qui se déplacent sur un événement, des fois ça permet de faire en une seule fois ce que 300 particuliers auraient fait d'aller voir 10 magasins par exemple sur un salon, alors que s'ils viennent tous sur une fois, l'impact est quand même réduit parce qu'ils ont tout le monde sur un seul déplacement. Donc il y a tout ça à regarder. Et puis on a voilà, ce projet de 200 arbres qu'on vient de signer, on a notre ruche, et on va proposer dans nos devis là maintenant aux clients de participer à ces actions un peu dites de compensation ou des actions un peu sociétales pour réduire l'impact de l'activité. Voilà.
D'accord, ok. Donc pas mal de projets, et puis une évolution quand même assez importante aussi de votre offre liée à ces sujets-là. Dernière question avant qu'on passe à l'instant musical. Vous y faisiez référence un petit peu au tout début sur cette notion de... c'est venu progressivement, ces engagements. Justement, comment ça s'est structuré, parce que... Enfin, pour avoir travaillé pas mal sur ces sujets-là avant avec des dirigeants d'entreprise, il y a toujours le côté un peu casquette citoyenne, où j'ai des engagements au titre de citoyen, et la casquette dirigeant d'entreprise, il y a la réalité économique qui vient rattraper tout ça. Comment vous avez réconcilié les deux ?
C'est une question compliquée. Parce que finalement, c'est peut-être une chance et je touche du bois. Tout s'est toujours fait naturellement dans mes démarches et dans ce que j'ai fait, et dans ma démarche intellectuelle, et dans mon engagement. Je ne suis pas un écologiste au sens pur du terme, mais par contre, de par mes engagements et je pense par l'action, et moi c'est plutôt ça qui m'intéresse, c'est de faire avancer la société. Il y en a qui passent leur vie à la critiquer, mais en fait si on s'engage jamais et qu'on prend jamais de responsabilité, je considère que ça ne peut être que de l'intérieur en permanence qu'on peut agir. Alors on n'est pas toujours d'accord avec telle politique, avec telle... Mais je pense que c'est... Et donc la force du collectif, moi je crois beaucoup en l'intelligence collective, c'est peut-être aussi une des raisons que sur l'Héro qui avance, c'est que depuis 2-3 ans, on a... du peu d'expérience que j'ai, ça fait une vingtaine d'années, ça a été un peu différent, mais il y a eu beaucoup de conflits dans la construction, toujours des conflits entre les différentes collectivités, entre les différentes chambres consulaires, entre les différents syndicats. Et finalement, les enjeux aujourd'hui sont tels que si on arrive à les dépasser, c'est ce qui est en train de nous arriver, on arrive à travailler tous collectivement. Et si on arrive à travailler tous collectivement, ça donne un territoire à mission, ça donne des résultats qui sont, je pense, beaucoup plus positifs. Et si on travaille dans l'écoute, dans le positivisme, dans l'innovation, et non pas dans le côté qui est très négatif de la société actuellement, où tout le monde se critique, où il y a beaucoup de violence, où il n'y a plus de bienveillance, où tout le monde se tape dessus, ben, c'est pas comme ça qu'on arrivera à faire avancer les choses, quoi. Donc moi, je suis plutôt dans l'action et dans fédérer les énergies. Et je trouve qu'il y a des belles énergies positives. Et il faut laisser de côté les énergies négatives, c'est pas elles qui nous font avancer.
Voilà. Eh bien, parfait. Je vous propose qu'on passe à l'instant musical qui, je crois, est un petit peu lié avec ces thématiques-là. Donc, qu'est-ce que vous avez choisi comme morceau ?
Alors, j'ai un peu cherché, effectivement, et j'ai plutôt des goûts un peu anciens, moi, sur la variété française et beaucoup de chanteurs français qui me touchent dans les textes. Mais il y a une chanteuse, effectivement, actuellement, qui me touche, qui est Camille Lelouch, parce que je trouve que, et dans ses textes, et dans la façon d'interpréter, elle est très vraie, très, 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 très sensible. Et j'ai choisi une de ses dernières chansons qui s'appelle « Ne me jugez pas », et ça revient effectivement à ce que je disais, aujourd'hui tout le monde se juge, tout le monde a un avis sur tout, tout le monde critique tout, et que finalement, en essayant de comprendre les gens, pourquoi ils ont fait ça, en étant à l'écoute et en étant plutôt dans la bienveillance et en essayant de travailler sur le positif, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses et qu'on arrivera, je pense, à résoudre tous les enjeux plutôt que l'inverse.
Mais ça me paraît très bien, on va l'écouter.
Mes éclats de rire, mes blagues continues vous animent, vous font vivre ce que vous êtes tordu. Mettez-vous à ma place un moment et voyez ce que j'endure souvent. Je ne veux plus faire semblant d'être heureuse devant vous, que ça vous plaise ou non, ben tant pis, je m'en fous. Vous m'aimerez comme je suis ou peut-être pas du tout, je m'en fous.
Merci beaucoup Grégory pour cet échange et la richesse un petit peu de ces points de vue, parce que c'est vrai qu'on a abordé plein de vos casquettes finalement dans cet épisode. Donc merci d'avoir expliqué un petit peu cette démarche qui, j'espère, fera des émules de territoire à mission et peut-être même aussi au niveau des associations, parce que c'est, je pense qu'il y a encore, on est vraiment à la genèse finalement de tout ça, il y a encore beaucoup de choses à faire, donc j'espère que ça inspirera d'autres à agir, justement à passer à l'action, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci beaucoup. À bientôt, avec plaisir.
Merci de votre écoute. J'espère que ce nouvel épisode de La Machine à Sens vous aura plu. Si vous avez des invités que vous souhaitez me recommander, que ce soit des entreprises ou des experts, ou si vous souhaitez échanger sur la société à mission, retrouvez-moi sur LinkedIn ou sur mon site internet lamachineasens.fr. À bientôt pour un nouvel épisode.